Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
6h38, c'est Philippe Bouvard qui pose son regard matinal sur l'actualité à mon humble avis ce samedi avec cette violence qui prend ses quartiers dans notre société. Philippe, bonjour à vous.
Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien à mon avis, les violences se multiplient tellement que notre cher et vieux pays mérite de moins en moins son appellation de douce France. Ben oui, la violence est partout. Alors, au sein des couples où l'accusation de viol a remplacé la libide, la migraine, mais aussi dans les familles où les générations nouvelles se chamaillent alors que leurs parents n'ont pas encore divorcé. À l'école, que 10% des enfants considèrent comme un lieu de violence. Dans les stades, où non contents de se battre entre eux, les supporters agressent maintenant l'arbitre et parfois les joueurs. Mais aussi sur les lieux de travail et dans les transports publics. Il fallait s'y attendre. Pendant les confinements et parallèlement à un terrorisme qui n'a jamais cessé ses ravages, la violence à la maison a augmenté de 9%. Et sachant que les victimes sont des femmes à hauteur de 85%. En revanche, les féminicides ont diminué en 2020 par rapport à 2019, où ils avaient culminé à 146. Les violences sont généralement français, mariés, de plus en plus jeunes, souvent chômeurs, mais moins drogués et moins alcooliques qu'on ne le supposait. Les hommes battus sont minoritaires, quoique on en dénombre déjà 82 000 et que tous n'osent pas porter plainte. De toute façon, compte tenu de l'addiction de nos criminels au couteau de cuisine, nous ne sommes pas prêts d'égaler le triste record américain selon lequel les meurtres sont commis à 82% à l'aide d'un pistolet. Et ça ne s'arrangera pas au Texas où depuis le 1er septembre, il suffit d'être adulte et de n'avoir pas encouru d'interdiction pour obtenir le droit de détenir une arme à feu et de la porter en public. Les plus jeunes ne sont pas épargnés. On en recense 700 000 qui, outre les raquettes, sont harcelés moralement, physiquement, voire sexuellement. N'oublions pas la violence au volant qui explique, sans la justifier, l'arrogance des conducteurs de petite taille, et je sais de quoi je parle, qui se sont offerts une grosse bagnole. Alors dans ce domaine, on pouvait espérer que la disparition de la bonne vieille manivelle calmerait les brutaux. Eh bien, il n'en est rien. Chaque année, les propriétaires d'engins motorisés tuent volontairement des dizaines de personnes et tentent parfois d'écraser les forces de l'ordre. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais je le partage. À demain matin.
À demain, Philippe. Philippe Bouvard sur RTL, samedi et dimanche, pour À mon humble avis. On a Jojo qui est connecté depuis Brest. Bis à tous, nous envoie-t-il sur la page Facebook.
Oui, nous aussi, on vous embrasse.
On embrasse tout le monde. JP à Avignon, il est très très heureux de nous retrouver ce matin. Il a un ciel tout clair, c'est le bonheur absolu. Notre rendez-vous animaux à présent, 6h47, chiens, chats et compagnie. C'est avec notre veto à nous. Bonjour Hélène Gâteau.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
On s'intéresse ce matin à la SPA. Comme chaque année, la SPA fait un bilan de l'été concernant les mouvements d'animaux au sein de ces refuges. Alors, verdict Hélène.
Alors, les nouvelles ne sont pas bonnes. D'après un chiffrage des abandons sur la période la plus critique de l'année, à savoir du 1er mai au 31 août 2021, ce sont quasiment 17 000 animaux, chiens, chats, mais aussi NAC, nouveaux animaux de compagnie, qui ont été recueillis sur cette période et c'est malheureusement un nouveau record. Alors, pour les chats, c'est une catastrophe. Presque 12 000 chats ont été pris en charge cet été, soit 2 000 de plus qu'en 2019 et on a assisté aussi à une explosion du nombre de chatons.
Comment on explique ça, cette hausse du nombre de chatons en refuge?
Alors, c'est une conséquence directe de la crise sanitaire et des confinements de 2020. Pourquoi? Parce que à cette période, eh bien, les bénévoles des associations n'ont pas pu faire le travail qu'ils font chaque année de trapage des chats sauvages pour les faire stériliser. Et les cliniques vétérinaires aussi n'étaient pas en mesure de pratiquer des actes non urgents sur une longue période. Donc c'est autant de chats qui se sont reproduits. On en paie les conséquences aujourd'hui sur le front de la protection animale. Et beaucoup de chatons sont encore déposés dans des conditions irresponsables. Hein. Des chatons âgés de quelques jours seulement, dans des cartons. Et pour qu'ils survivent sans leur mère, eh bien, ils doivent être biberonnés plusieurs fois par jour. Heureusement, la SPA eh bien, peut compter sur l'aide de familles relais qui se chargent de cette tâche. Mais ouais. Ce n'est pas une solution.
Évidemment. Et les chiens subissent aussi l'acquisition coup de tête liée à la crise sanitaire.
Eh bien oui, tout à fait. Ils sont 2000 à avoir été déposés à la SPA cet été. Et presque 2500 en plus. Hein, donc en tout, ça fait 4500 chiens abandonnés cet été. 2500 donc, qui sont passés par la fourrière ou qui ont été sauvagement abandonnés. Ce sont les chiens laissés sur les aires d'autoroute ou dans les forêts, les classiques. Alors attention hein, Stéphane, je ne stigmatise pas tous les abandons. On sait aussi que parfois les conditions de vie de certaines personnes changent. On sait que beaucoup de familles, de personnes souffrent des conséquences économiques de la crise sanitaire et pour lesquelles eh bien, placer son animal, ça ne signifie pas du tout s'en débarrasser le cœur léger. Parfois, certaines personnes sont vraiment prises à la gorge et n'ont d'autre solution que de l'amener à la SPA. Mais quand la démarche est faite dans ce sens-là, où on l'amène à la SPA, où on explique dans quelle situation on se retrouve, on ne peut pas comparer ça avec un animal qui a été lâchement abandonné sur une aire d'autoroute. Ce sont de tristes chiffres hein, qui ne proviennent là, cette fois-ci, que de la SPA. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'autres associations, fondations, qui malheureusement font le même constat cette année.
Et à ce propos, Hélène, viennent de sortir d'ailleurs en librairie vos deux nouveaux livres. Hein. Je rends mon chien heureux et je rends mon chat heureux aux éditions Solar. Pour les futurs adoptants, mais aussi les propriétaires actuels de chiens ou de chats, ce sont des conseils, des astuces. Et c'est à lire absolument. Merci Hélène, à demain.
Merci, à demain.
RTL, l'œil de Molcou. Dorothy was a waitress on the promenade. She worked the night shift. Dishwater blonde, tall and fine.
Alors Julia, vous nous emmenez à la rencontre d'une écrivaine et chroniqueuse américaine, Dorothy Parker.
Dorothy Parker que chante ici Prince. Elle était en effet une écrivaine, une poétesse et chroniqueuse américaine née en 1893 et morte en 1967. Sa plume acérée était l'une des plus redoutées du monde culturel de l'entre-deux-guerres. Elle écrivait dans le Vogue, dans Vanity Fair ou encore pour le New Yorker. Elle était très vive, très rapide et elle était aussi souvent sollicitée pour la grande qualité de ses dialogues. C'est ainsi qu'elle collabora notamment avec Hitchcock, c'est quand même pas rien, avant d'être victime du McCarthyisme et inscrite sur la liste noire du cinéma parce que Dorothy Parker avait cofondé la Ligue anti-nazie d'Hollywood, alors on la soupçonna d'être liée aux communistes. De Dorothy Parker, on retiendra donc les poèmes, mis en musique ici par exemple par l'artiste canadienne Myriam Gendron. On retiendra aussi le cercle vicieux, ce cercle d'intellectuels à l'humour cinglant auquel elle appartenait. Et puis grâce à Zabou Breitman et à son spectacle qui vient de commencer au théâtre de la Porte Saint-Martin, eh bien ceux qui comme moi n'en savaient pas beaucoup plus à son sujet ont presque l'impression de la connaître.
Zabou Breitman qui interprète donc Dorothy Parker sur scène.
Alors parfois elle nous la raconte et parfois, sans jamais chercher à l'imiter, elle se glisse dans ses robes et dans ses décors. Et elle nous fait entrer dans les pensées de Dorothy Parker, comme là, lorsqu'elle se retrouve à un dîner, à côté d'un type très ennuyeux, un gros poupon à qui elle n'a rien à dire, au point qu'elle regrette de ne pas s'être apporté quelque chose à faire pendant le dîner, quoi, histoire de s'occuper un peu.
Chère Madame Parker, venez dîner chez nous vendredi prochain et n'oubliez pas votre carnet de croquis.
Oh, j'aurais pu apporter le tiroir du haut de ma commode et ranger le bazar là sur mes genoux. J'aurais vraiment pu m'avancer pour coller les photos de groupe sur la plage dans mon album. Je me demande si la maîtresse de maison trouverait ça bizarre si je lui demandais un paquet de cartes. Je me demande s'ils n'ont pas besoin d'un petit coup de main en cuisine. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a envie que je sorte en courant pour acheter le journal. Oh, je pourrais manger derrière la cravate, évidemment, toute seule comme une grande. Il y a toujours cette solution.
Voilà, oh dans ce spectacle, Zabou Breitman s'appuie sur 5 nouvelles de l'autrice américaine pour nous parler d'elle, mais aussi de cette époque folle de la prohibition des rapports entre les hommes et les femmes. Et c'est aussi l'occasion de découvrir que jusqu'au bout, Dorothy Parker ne manquait pas de panache. Est-ce que vous savez ce qu'elle a demandé qu'on écrive sur l'épitaphe de l'urne qui contiendrait ses cendres après sa crémation ? Sorry for the dust. Pardon pour la poussière. Voilà, cette femme était tout simplement géniale et le spectacle écrit et interprété par Zabou Breitman au Théâtre de la Porte Saint-Martin est une pure merveille. Si vous avez des envies de théâtre et que vous êtes dans le coin, allez-y. Et si vous êtes un peu plus loin, eh bien plongez-vous dans les écrits de Dorothy Parker. Vous allez vous régaler.
L'œil de Molcou de ce samedi matin à 6h54. On a le bonjour de Marie-Claude à Bagneux qui est connectée. On la salue évidemment. Béa qui est tranquillement sous la couette à l'écoute de RTL qui nous remercie d'être là pour tous les auditeurs. Petit resto pour les 22 ans de sa fille Constance aujourd'hui. Profitez bien évidemment de votre journée. Merci de nous accompagner. On est ravis d'être là. On a plein de choses à vous raconter. Il est 6h54 dans un instant. Le ciel détaillé par Céline. Et grâce à vous, grâce à vos SMS 64 900 code matin et vos infos sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'émission. À tout de suite.
Bonne matinée avec Stéphane Carpentier. Un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert. Et attention tous au tableau, c'est notre cours de français du matin. Bonjour Muriel.
Et bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
La semaine dernière, vous parliez culottes et cette semaine, vous continuez de fouiller, vous, dans l'armoire à vêtements.
Eh ben oui, on est bien parti. Alors nous disions dimanche dernier que le sous-vêtement féminin que nous appelons aujourd'hui une culotte était à l'origine un vêtement masculin du dessus, proche du pantalon. Mais quantité de vêtements ont ainsi changé de nom au gré des modes, celle du prêt-à-porter comme celle du vocabulaire. Et à ce propos, j'ai reçu le témoignage de Xavier. L'autre jour, il dit à sa petite fille « N'oublie pas ton chandail !» Et elle a répondu « C'est quoi ?»
Ouais, c'est vrai qu'on utilise plutôt le mot « pull » maintenant, non ?
Oui, alors je pense que les adultes savent encore ce que c'est qu'un chandail. Quoique, peut-être pas les plus jeunes. « Au secours, encore un mot en perdition !» m'écrit Xavier. « Dans peu de temps, il va se dissoudre comme un sucre dans une tasse de thé. » Et pourtant, il est beau ce mot. Il a un sens, une étymologie, une histoire.
Une histoire que vous allez nous raconter, je parie.
Eh ben voilà, avec joie. Le mot « chandail », dans ce sens de vêtements tricotés, remonte à la fin du 19e siècle. À cette époque, les petits métiers de la rue et les commerçants des marchés faisaient leur pub à grand renfort de cris. Et selon le dictionnaire étymologique Antidote, chandail est l'abréviation qu'utilisaient les marchandailles des Halles de Paris, qui s'annonçaient en tronquant la première syllabe de leur appellation « chandail ». Et donc ce cri en est venu à s'appliquer au lainage qu'il portait.
Et le mot pull est beaucoup plus récent du coup.
Oui, pas tant que ça en fait. Ouais. Il vient de l'anglais naturellement et on le repère en français dès 1925 sous la forme pullover. Donc depuis bien souvent abrégé en pull tout court. Et plein d'autres vêtements ont ainsi changé de nom. Mon grand-père, qui était né au début du XXe siècle, ne portait pas de chaussures mais des souliers. Pas de chaussons mais des pantoufles. Pas de t-shirts mais des tricots de peau. Pas de shorts mais des culottes courtes. Pas de pantalons mais des culottes longues. Et tenez, donc voilà aux culottes de la semaine dernière, la boucle.
Et la plupart de ces mots existent encore, pantoufles, souliers ?
Oui, ce qui ne les empêche pas d'être en voie de disparition. Seuls, disons, les plus de 60 ans et les professionnels de la chaussure parlent encore de souliers, par exemple. Pour les chausseurs, c'est précisément une chaussure résistante à tige basse, selon la définition du Larousse. Hein. Mais le terme générique que tout le monde utilise, c'est bien chaussure aujourd'hui. En revanche, comme souvent, un mot dont le grand public abandonne peu à peu l'usage continue à vivre longtemps dans nos expressions. Vous voyez une expression à base de souliers, Stéphane ?
Être dans ses petits souliers ?
Et voilà, bravo. À l'origine, l'expression signifiait être malade. On disait d'ailleurs plus exactement être mal dans ses petits souliers. Mais aujourd'hui, elle veut dire être dans l'embarras. Et grâce à elle, le joli mot de soulier n'est pas prêt de disparaître de nos dictionnaires.
Voilà le sens et l'origine des mots. C'est avec Muriel Gilbert, le bonbon du samedi matin. C'est à podcaster. Quand vous le souhaitez, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur...